RMC, face aux grandes gueules.
Maître Olivier Pardot, bonjour.
Bonjour.
Avocat de la famille de Sarah Halimi. On va rappeler, en 2017, Kobili Traoré, roué de coups et défenestré Sarah Halimi, 65 ans, en criant à la Ouakbar. Dans cette affaire, les experts avaient conclu à la bouffée délirante au moment des faits. Il n'y avait pas eu de procès. Mais vous dites, l'affaire n'est pas terminée.
Pourquoi elle n'est pas terminée?
Parce que nous avons des éléments nouveaux. D'abord, vous l'avez dit, c'est une des affaires les plus terribles. Moi, je me suis plongé dans le dossier depuis près de un an avec mon cabinet. Et les images sont terribles. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été qu'assassinée. Elle a été torturée. Elle a été violentée. Elle a été jetée vivante, défenestrée vivante, alors qu'elle se débattait, qu'elle faisait tout pour vivre. Et la cour d'appel, d'abord le juge d'instruction, la cour d'appel, ont considéré que parce que Traoré avait pris une consommation excessive de cannabis, eh bien, il y avait une abolition du discernement.
Bouffée délirante, c'est tout ce qu'on avait...
Bouffée délirante, ça veut dire qu'au moment des faits, il était, délirant. Et,
donc, il n'y a pas eu de procès.
Non, il n'y a pas eu de procès.
Il a été interné dans un hôpital psychiatrique.
C'est très intéressant. Il a été interné dans un hôpital psychiatrique. Puis, quand vous êtes à l'hôpital psychiatrique, il faut que vous soyez malade. Et au bout d'un moment, on vous met dans un hôpital un peu plus classique. Dans l'hôpital un peu plus classique, vous avez des permissions de sortir. Et vous savez ce qu'il a fait pendant les permissions de sortie, récemment? Il est allé racketter, violenter une personne, parce que comme il faisait du trafic de crack, qu'il consommait également, et que cette personne n'avait pas payé, il est allé lui casser la figure. Voyez-vous? Et il a été à nouveau poursuivi par la police, puis par la justice, et il a dit peut-être qu'il était également bouffé délirante, et là, on a dit, mais pas du tout,
vous n'avez pas de pathologie. Là, ça n'a pas fonctionné, là.
Là, ça n'a pas fonctionné.
Oui, mais on sait que c'est un marlou, de toute façon, on sait que c'est un petit voyou.
Oui, oui. Alors c'est pas un petit voyou, voyez-vous.
Non, mais attendez.
C'est pas un petit voyou, c'est un assassin.
Par rapport au nouveau fait qu'il vient de commettre, c'est juste par rapport à ça, on s'attendait.
Un antisémite, mais et son antisémitisme d'ailleurs perdure, parce que quand il est à l'hôpital, il refuse de se faire suivre par les infirmières parce qu'elles sont de confession juive. Mais c'est pas ça, tout ça.
Mais il coche toutes les cases, il est bien.
Hein?
Il coche toutes les cases, ce personnage.
Il coche toutes les cases, mais il n'y a pas eu de procès. Et la famille de Madame Halimi, qui était une sainte femme, n'accepte pas. D'ailleurs, comme toute une partie des Français, au-delà de la communauté juive. Et donc, on a cherché. Et il a fait tout cela, toute cette torture de Madame Halimi, il a fait ça en public, parce qu'il était sur le balcon, il y avait du monde autour. Et il y a une personne, un voisin, qui a enregistré ce qui se passait. Ça, c'est le premier élément. Qui a enregistré, et c'était dans le dossier d'instruction, sauf que c'était inaudible. Et nous, on a fait travailler un expert près de la Cour de cassation, qui avait des techniques modernes, est arrivé à établir ce qu'il disait. Et ce qu'il disait n'était pas du tout délirant. C'est-à-dire qu'il était dans une démarche politique.
Et qu'est-ce qu'on entend?
Alors, on entend, c'est pour la cause palestinienne, c'est pour Abu Mazen. Abu Mazen, c'est le nom
de Yasser
Mahmoud Abbas. Et pardon de le dire, celui qui connaît le nom d'Abu Mazen est déjà quelqu'un qui a une conscience politique forte. Et il disait, pour les Palestiniens, parce que comme il avait du public autour, des voisins qui entendaient, des gens qui étaient là, il tenait un discours. Et ce discours n'était pas un discours de bouffée délirante. La bouffée délirante, c'est-à-dire, vous passez, n'importe qui est là, vous allez le massacrer parce que vous êtes là. Là, il a choisi la juive, tout de suite. Déjà, non, il y avait un problème.
Pardonnez-moi, mais on peut être drogué et antisémite.
Oui, mais vous pouvez pas avoir une conscience d'acte antisémite quand vous pouvez pas passer à l'acte. Il y avait plein de personnes, il y avait d'autres voisins, il est allé la chercher. Mais j'ajoute un deuxième élément qui est encore plus parlant, et Sandrine, je suis sûr, va l'entendre. Oula. Avec sa qualité de juriste. On admettra que la bouffée délirante et la préméditation, ça colle pas. Vous pouvez pas préméditer et être en bouffée délirante. À l'occasion de la commission d'enquête parlementaire qui a eu lieu après, qui était une commission parlementaire extraordinairement discutée, disputée, comme toutes les commissions parlementaires, il y a une des voisines de Traoré et de Madame Halimi. Traoré et Madame Halimi étant eux-mêmes voisins, qui est policière. Elle a tenu des propos ambigus en disant que son propre frère, le frère de cette policière, ce soir-là, exceptionnellement, très exceptionnellement, ça faisait 6 ans qu'il n'avait pas quitté le domicile, est allé demander, alors est-ce elle, est-ce lui, de dormir chez sa sœur. Sa sœur, elle se trouve à 6 appartements, 6 blocs de maison, si vous voulez, de Traoré et d'Halimi. Et elle dit, je me demande pourquoi, c'était quand même très exceptionnel, etc. Cette dame a fait des confidences à William Attal, un parent de Madame Halimi, en lui disant, en fait, il savait parfaitement que Traoré allait passer à l'acte, on est la veille, allait passer à l'acte vis-à-vis de Madame Halimi. Donc comment voulez-vous mettre bout à bout une préméditation, c'est-à-dire l'idée que je vais...
Et la bouffée délirante.
Mais alors, comment on obtient un nouveau procès? Comment ça fonctionne?
Ou un procès, puisqu'il y a... Alors,
d'ailleurs, je dis, il n'y a pas eu de procès.
Là,
hein, procès.
Là c'est la réouverture de l'instruction pour charge nouvelle.
Voilà. Merci. Vous connaissez l'affaire Epstein?
Oui.
Dans le cas de l'affaire Epstein, la partie française avait été clôturée. Il y a eu les événements liés à M. Jacques Lang. Qu'a fait le parquet général? Il a dit, j'ai des éléments nouveaux, je réouvre l'instruction. Pourquoi? Parce que quand vous êtes au stade de l'instruction, vous rendez toujours une décision en l'état. C'était en l'état de ce que vous savez, de ce que savaient
les
experts.
Mais s'il y a des choses nouvelles?
S'il y a des choses nouvelles, le parquet général, alors je ne vous dis pas que jamais, j'ai été magistrat, jamais vous avez envie de réouvrir quelque chose des clos qui a donné tellement de
problèmes. Ça peut que vous reconnaissez un peu vos fautes aussi.
Mais en fait, on leur donne des éléments nouveaux. Moi, je suis pas.
Ne voyez pas pourquoi ils ne pourraient pas rouvrir.
Voilà. C'est-à-dire que moi, je leur dis pas, vous avez mal fait leur travail, vous êtes pas bon, vous avez pas fait ça. Moi, ce qui m'a toujours choqué, et Sandrine l'a dit très bien, et Zora aussi, c'est-à-dire comment voulez-vous dire dans la même phrase, je suis antisémite et j'ai une bouffée délirante. Déjà, c'était.
Moi, je voudrais.
Zora Bitton.
Alors, moi, j'ai suivi de près cette affaire de Madame Halimi. D'abord, enfin, moi personnellement, je pense que c'est l'État, en tout cas la justice, qui a eu une bouffée délirante, parce que quand on voit qu'aujourd'hui, en février 2026, ce criminel fait un homejacking, donc il a toute sa tête pour consommation de crack et c'est un délinquant notoire. C'est ce qui est gênant dans cette affaire, c'est l'effacement, le déni de l'antisémitisme, c'est d'avoir tenté de le mettre en second plan et d'avoir maquillé ça en bouffée délirante pour retrouver ensuite dehors quelqu'un qui remet qui recommet un autre acte. Et c'est toute la question de la République et de son rapport avec l'antisémitisme qui, à chaque fois, on se pince le nez, on fait comme si on n'avait pas vu et on tente à chaque fois d'essayer de trouver des biais et des sorties pour ne pas qu'ils surgissent dans la société. Au-delà de l'affaire, et donc le dossier, je ne suis pas avocate, mais le fait qu'il soit réapparu dans un acte de délinquance va permettre de qualifier... Oui, mais quand même, je veux dire, tu peux pas être dans une bouffée délirante qualifiée comme celle-là
et c'est très complexe et vraiment
retrouver.
Il y a eu des collèges d'experts.
Mais
hein,
on tue pas quelqu'un en disant Allahu Akbar pour rien. Enfin, voilà, les crimes, il y en a tous les jours, les narcotrafiquants, etc. Quand ils se mettent des coups de calache entre eux, ils ne crient pas à la Wagba.
D'accord, mais là, du coup, il est où Kabylie Traoré, là, maintenant?
Là, alors, il est en détention.
Oui, pour l'homejacking.
Pour cette nouvelle affaire. Ce coup-là, il a été en détention. Et mais vous dites une chose très, très, très juste, parce que c'est le troisième élément. C'est que, voyez-vous, les experts, ils ont en main, le collège d'experts, comme vous dites, ils ont en main le fait qu'il ait pris du cannabis.
Mais oui.
Et ils se disent. C'est leur raisonnement juridique, il est particulier. Ils se disent, bon, quand vous prenez du cannabis, vous n'êtes pas censé savoir que ça va vous désinhiber au point de pouvoir passer à l'acte. C'est ce qu'ils disent.
Étonnant, ouais.
En revanche, la jurisprudence de la Cour de cassation vous dit, quand vous prenez du crack, là c'est différent parce que le crack, vous ne pouvez pas ignorer...
Que ça vous défonce. Quoi.
Que ça vous défonce.
Oui, mais c'est pas vous faire dire.
Et qu'est-ce qu'on a comme nouveaux éléments, toujours par cette policière, c'était qu'il est consommateur de crack. Il est tellement consommateur de crack que là, il a été pris pour violence sur du crack. Voyez-vous.
Mais alors c'est curieux parce qu'il prend du crack, il tabasse quelqu'un. Là, on estime qu'il n'y a pas de bouffée délirante, il va en prison. Il prend du cannabis, qui est moins fort.
Il
tue quelqu'un et là, il a une bouffée délirante. Je comprends pas bien le raisonnement.
Voyez-vous là. Voyez-vous, Olivier. La justice est rendue au nom du peuple français, elle est rendue en votre nom. Ouais. Et donc, elle vous dit, quand vous prenez du cannabis, ça va. Vous pouvez avoir une bouffée délirante et être sorti. Quand vous prenez du crack, bah ça va plus. Et je dis une chose, parce que j'ai promis de le dire, si vous m'autorisez.
Allez-y.
C'est que ce sont des expertises. La famille Halimi, elle est pas riche, hein. Nous, on se débrouille, mais les experts, on en a besoin. Et c'est pour ça qu'on a lancé sur Allo Don la possibilité de les aider avec défense. Halimi,
c'est à la famille Halimi de payer les experts.
Ah ben évidemment, parce que pour apporter des éléments nouveaux, on fait nous-mêmes l'enquête.
Mais l'élément nouveau, surtout le plus probant, c'est ce qu'il dit quand il est sur le balcon avant de la défenestrer. Ah
ouais. Non, mais ça, c'est ce que tu crois, toi, qui est probant. Mais c'est...
Oui.
Est-ce que tu crois quoi?
Ah, bah, c'est ce que.
C'est ce que tout le monde pense. Pardon, les arguties du juriste. Sur cette histoire, vraiment, juste un mot. Moi, je suis pas avocat, je pratique pas le droit pénal.
Mais
je suis juriste, mais pas de droit pénal, tu vois. L'affaire est horrible, sordide, on est tous écœurés. Et ce qui ressort de la justice, c'est que le mec s'en sort, qu'il est libre, qu'il peut même recommencer. Et là, toi qui es un brave citoyen, te dis, mais enfin, on est dans quel pays? C'est-à-dire qu'il y a un loup, il y a un méchant dans la société, un mec qui fait du mal, et on est incapable de le mettre hors d'état de nuire.
Oui, mais en France, on ne juge pas les fous, tu le sais.
Pardon, ça ne marche pas.
En France, on ne juge pas les fous.
Et donc, oui, mais pardon, mais.
Et donc, il a été reconnu irresponsable.
Si on ne le juge pas, même si on ne le juge pas, on le met hors d'état de nuire. C'est-à-dire qu'il manque un truc.
Il a été à l'hôpital psychiatrique et c'est quoi? Il y a eu une intervention du préfet pour qu'il
sorte. C'est pas possible de laisser le loup en liberté.
Quand vous allez à l'hôpital,
on protège pas la société.
C'est pas. Les médecins.
Il n'a pas du tout été soigné.
Bah, il a été soigné, puisque les psychiatres, ils ont besoin que le garçon adhère. À quoi il adhère? À quel traitement il adhère? Et je vais très vite. C'est-à-dire que c'est pas que la famille Halimi, c'est pas que les juifs, c'est qu'il a fait un pied de nez à la justice.
Il a trompé la justice.
Il a fait un pied de nez à la justice.
Moi, pardonnez-moi, mais j'ai pas la même lecture. Vous savez, confrère, que je respecte tout votre travail, je respecte votre carrière. Bon, je suis là aussi pour un peu assurer le contradictoire. Bien évidemment que je ne cautionne en aucun cas les actes atroces de Monsieur Traoré, c'est clair. Oui. Mais là, j'ai l'impression que vous faites un peu de démagogie judiciaire. Je vous explique. Parce que les éléments nouveaux que, soi-disant, vous voulez apporter pour la réouverture de l'instruction pour charge nouvelle, ben pour moi, c'est un peu dépourvu de pertinence. Pourquoi? Vous parlez de l'audio. L'audio, ça change rien par rapport à l'antisémitisme. Il a été reconnu. Vous parlez du crack. Est-ce que vous réussissez à démontrer une causalité directe et certaine entre la bouffée délirante et le fait que ça a été prévisible? Non. Donc en fait, j'ai un peu l'impression que vous vous servez un peu de tous ces éléments périphériques pour faire croire un peu à la famille. Et pardon si en tout cas j'estime et que j'ai ce regard-là sur vos moyens de défense. Et pour moi, c'est vraiment dépourvu de pertinence.
Alors, je vais vous dire. D'abord, vous
le caractère
pas
certain.
La différence entre vous et moi, c'est que vous connaissez pas le dossier.
Je me suis beaucoup intéressé et surtout je connais bien l'avocat de M. Traoré.
Vous connaissez pas les éléments nouveaux qui sont dans le dossier que j'amène. Moi j'ai pas fait un truc en disant je pense que c'est pas bien et qu'il faut réouvrir. C'est-à-dire que je suis allé au bout de l'analyse, c'est-à-dire que j'ai pris des expertises et j'ai dit que disent les experts. Ils disent ok, il était antisémite, ça change pas qu'il pouvait avoir une bouffée délirante.
Bah oui.
Dont acte.
Ça c'est vrai.
Ok. Mais entre être antisémite et avoir une pensée politique construite avec des références précises et faire l'acte là, c'est une différence volontairement et avec une conscience politique. Vous pouvez pas avoir une conscience politique au moment de l'acte et être dans la bouffée délirante.
Mais parce que sinon, vous allez dire c'est une expertise qui est privée, c'est une expertise que vous avez payée vous, qui n'est pas contradictoire.
L'enregistrement, je l'ai versé au dossier.
Voilà, ces éléments, vous les avez versés au dossier.
Bien sûr.
Donc vous espérez une décision du parquet quand alors?
Moi, j'espère que le parquet général, parce que c'était au niveau de va examiner. Moi, tout ce que je lui demande, c'est pas de condamner, c'est de regarder, d'entendre la policière qui n'avait jamais été entendue. Enfin, vous n'entendez pas la voisine qui a des informations précises à vous donner. Entendez-la. Après, vous faites-vous votre opinion. Regardez s'il était consommateur de crack au vu des nouveaux éléments ou s'il n'était pas.
Mais les enregistrements audio, ils n'avaient pas été dans la.
Ils étaient dans le dossier, mais il y avait écrit inaudible.
Oui, mais le point.
Sauf qu'ils sont audibles. Bah, on entend audibles, précisément.
Ils sont
ce qu'ils
audibles
disent.
Voilà. Par les techniques nouvelles.
Aujourd'hui.
Vous savez, c'est comme. Aujourd'hui, c'est comme.
8 ans, 9 ans après,
c'est
on
comme l'ADN. C'est comme l'ADN. C'est-à-dire qu'il y a des tas de crimes qu'on n'a pas résolus parce qu'il n'y avait pas d'ADN. Quand vous avez de l'ADN, c'est même pas un cold case parce que c'est trop récent.
Mais
c'est quelque chose qui est ça. Et moi, tout ce que je demande, c'est qu'il y a un procès. Enfin, c'est une des affaires les plus horribles.
Le point crucial, c'est pas l'antisémitisme, c'est de savoir s'il était dans la capacité d'être discerné au moment des faits.
Pourquoi refuser le procès, ça que je ne comprends pas.
Pourquoi refuser?
On a dit qu'il était irresponsable pénalement parce qu'il y a eu deux collèges d'experts qui ont estimé que justement il y a eu une abolition du discernement. On parle pas
d'abolition. D'abord, il y a trois experts. Il y en a un qui a dit qu'il y a eu.
C'est parce que j'ai dit deux collèges d'experts et un qui a.
Limitation de son discernement, ils n'étaient pas là au moment des faits. Ils n'avaient pas ces éléments. Peut-être que ces experts, parce que imaginez-vous que j'ai quand même travaillé avec des experts psychiatriques qui disent très simplement, si on avait su, nos conclusions n'auraient pas été la même. Ils ne diraient pas qu'il n'y avait pas un problème de discernement. Mais peut-être pas une abolition totale. Parce que l'abolition totale, ça veut dire que vous n'êtes absolument pas conscient de ce que vous êtes en train de faire.
Merci.
Il y a tellement de choses à dire aussi.
Venez au procès. Prenez la défense de Traoré. Je pense que monsieur Biknik sera ravi de vous avoir à vos côtés. Et là, on aura un procès.
Si procès il y a, en fonction des nouveaux éléments.
Espérons.
C'est ce que l'on va suivre. Merci maître Olivier Pardo d'être venu nous parler de ces nouveaux éléments.
Merci à vous de m'avoir reçu. C'est important que vous fassiez entendre cette voix-là, parce que vous aurez peut-être remarqué que souvent la justice est à l'écoute aussi de ce que pensent les gens, de ce qu'imaginent les gens, et vous avez une émission qui a cette caractéristique d'être très populaire, et moi ça m'importe que le peuple français s'intéresse aux affaires judiciaires.
Merci maître Olivier Pardo.